Bonjour et bienvenue à Point de vue, l'épisode 17, le podcast 100% cinéma. Mon nom est Paul Landriot et je suis avec mes collègues
Rémi Fréchette
et Pascal Plante.
Hey, bonne fête du Canada les amis.
Bonne fête. Ouais, bonne fête du déménagement.
Ouais.
Avez-vous d'écouter des films canadiens anglais cette semaine les gars?
Quel film canadien anglais?
Ben comme à chaque semaine, j'en ai écouté trois.
Okay, ouais,
j'ai écouté aussi. La trilogie Ginger Snaps en boucle toutes les semaines.
C'est quoi ça?
Hey, c'est vraiment bon.
C'est un film d'horreur à la Carrie, là. C'est vraiment bon pour vrai.
Des films de loup-garou, c'est une trilogie.
Ben le premier est bon. Là.
Ouais, ouais.
J'ai aucune idée, c'est quoi ça?
Ouais, ben sérieusement, ça a écouté. Je pense que c'est 2000 le premier. Puis,
Mais non, mais en fait, le film canadien anglais, il n'y a pas Black Christmas, je pense. Ouais,
c'est canadien anglais.
C'est ça. C'est pas mauvais.
Il y a beaucoup de trucs d'horreur des années 70-80, là. Il y a comme une vague, mais sinon. Ouais. Puis Passchendaele aussi, c'est anglophone.
Hey man, don't get me started on Passchendaele.
Hey wow, c'est un podcast qui commence tellement bien.
Mais... Écoute, oh, on en est couleur. En... Ben vraiment, j'aimerais peut-être dire aux gens que bon, la page Facebook, de point de vue, est un peu laissée à dépourvu ces jours-ci. C'est assez simple, en fait. Moi, je déménage, on n'est pas beaucoup sur Facebook. On a eu beaucoup de... Tu sais, avec le déménagement, puis Pascal et Rémi, vous avez votre série Les Jaunes, là, que vous êtes en gros rush de pré-prod.
Ouais.
Donc, c'est un petit peu pour ça. On s'excuse si on est un peu moins présent sur
Mais on est toujours fidèles au podcast chaque semaine, fidèles au poste. Fait que ça, c'est une bonne affaire.
Ouais. Fait que avant qu'on commence, j'aimerais ça faire une petite correction. La semaine passée, on parlait de films de la Corée du Sud, etc. Et j'ai dit que la Corée du Sud, je croyais que c'était à peu près 80 millions d'habitants. Mais non, en fait, c'est 48 millions d'habitants. Près de 49. Donc, ça prouve que même dans des pays de... Tu sais, au Canada, on est quand même 34 millions à peu près.
À peu près, ouais.
Fait qu'on n'est pas tellement plus petit qu'eux en termes de population. Puis pourtant, notre cinématographie n'a pas grand-chose à voir. Donc, ça prouve juste que dans des pays où la volonté du gouvernement est là, il y a moyen de faire des cinémas nationaux de qualité et populaires.
Oh yeah.
Qui dit fête du déménagement et 1er juillet dit la moitié de l'année. Alors, j'ai une question pour vous, les gars. C'est quoi votre film préféré de 2012 jusqu'à
présent? Moonrise Kingdom.
Ouais, je pense que c'est con, mais je veux pas juste suivre la vague, mais ouais, Moonrise Kingdom.
Ouais, il y a vraiment aucun autre film, moi, cette année, à date, qui m'a...
Ça m'a jeté à terre, puis c'est comme, moi, ouais, c'est...
J'ai comme rien à reprocher au film, là, qui est vraiment comme, c'est juste un vraiment putain de bon film.
Et puis je l'ai dit la semaine passée, je suis retourné le voir, moi, puis c'est fou comment il y a un souci du détail. Tu sais, la première fois que t'écoutes un Wes Anderson, t'écoutes le foreground, t'écoutes ce qui se passe en avant-plan, mais la deuxième fois que j'écoutais un Wes Anderson, je me forçais à regarder ce qu'il y avait plus en background, puis regarder un peu plus la périphérie, puis la direction artistique, puis tu te rends compte qu'il y a tout le temps un personnage qui bouge en arrière-plan, il y a toujours quelque chose pour meubler ton œil, tu sais, il y a tout le temps quelque chose à voir, puis un souci du détail tellement minutieux, puis en tout cas, ça fonctionne très très bien à deuxième écoute. Moi, ça n'a pas du tout terni mon appréciation du film, de le revoir en fait. Donc non, définitivement. Mais j'ai pas vu Rebelle de Kim Nguyen, puis j'ai un énorme bon feeling par rapport à ce film-là. Que ça, j'ai hâte de le voir. Les deux gars, vous l'avez vu, à te connaître,
c'est sûr que tu vas adorer. Là. Mais ouais, moi, je veux souligner quand même si ça a été bien bâché par les critiques, mais Laurence Anyway, c'est quand même dans les bons films que j'ai vus cette année. Puis,
ben, moi aussi.
Je suis allé voir deux fois au cinéma. C'est vraiment rare que je fais ça.
Ah ouais, je savais pas aimé que tu
allais. J'avais fait ça pour The Artist. Ben, tu sais, on est allé voir en première de presse, fait que tant qu'à faire, j'étais allé une fois avec des amis là, puis
t'as contribué, mais
j'ai contribué, c'est ça.
Mais ouais, contribué. Fais ta juste part, Rémi. T'as fait ta juste part pour le cinéma québécois.
Ouais. Fait que j'attends ma lettre de Xavier Dolan signée là. Me remercier.
Il a fait combien d'argent au box office, Laurence Anyway?
Je crois qu'il tournait, il approchait du 375 millions, ce qui est un peu plus de la moitié du box office de Dérapage.
Ouais.
360 quoi?
375 000. J'ai dit 10
millions.
10 millions.
10 millions.
Ouais, non. 10
millions juste, de dollars.
Juste 100 fois moins. Non, c'est ça, 375 000.
Hey, mais c'est fou parce que Les Amants Imaginaires a fait 400 000.
Ben, c'est ça. Il reste, je pense que son public cible, il y a pas mal. Parce que je pense que Xavier Dolan au Québec, on entend tellement parler qu'il est à saturation. Tu sais, il peut pas vraiment aller plus loin que ce qu'il y a. Il y a son public. Tandis qu'à des places comme la francophonie, la France, l'Europe, ben, peut-être qu'il va faire un gros box-office.
Ouais. Puis, tu sais, je parlais de juste part un peu à la blague avant, puis je vais continuer un peu sur ma lignée à la blague, mais tu sais, quand on parle d'argent qui vient d'ailleurs, puis de contribuables, puis d'investissements un peu partout comme ça du gouvernement, un film qui est très proche de son argent, c'était Les Amours Imaginaires. Les Amours Imaginaires avaient coûté 500 000 et avaient rapporté 400 000. Écoute, ça, c'est énorme, là, comme ratio, c'est pratiquement du jamais vu pour le cinéma québécois. Là, t'as Laurence Anyway qui va peut-être faire 400 000, tu sais, qui est équivalent à son autre film, mais qui a coûté 9,5 millions, tu sais. C'est quand même pas la même game, là, qu'on côté Parce que je sais qu'on devrait pas parler du succès du film en relativité avec comment il fait puis son revenu puis bon, mais quand même.
Bon, là, tu dis pas la même game, mais c'est la même game justement. C'est la même game, c'est juste que le film a coûté plus cher. C'est juste qu'il y en a un, il y en a un qui était autofinancé puis l'autre il l'a financé genre full pin avec avec les financements d'État.
Fait que merci Pascal de tourner le couteau dans la plaie.
mais non, mais là,
j'ai piqué là. Pascal, il va falloir que tu baisses les niveaux.
Hein?
Mon rire était tellement fort que je viens de piquer, il va falloir que tu baisses les niveaux. Ah ouais. C'est vraiment un bon gag.
mais ouais, non, c'est ça. Puis, ben moi, pour ma part, le film préféré, ben, c'est encore une fois Moonrise Kingdom. Peut-être une petite mention, c'est ça, Rebelle, Lawrence Anyways, on en a parlé. J'ajouterais aussi China Heavyweight, ce documentaire de. Je me rappelle plus son nom, je crois, Yung Chan. Donc, ce documentariste qui nous avait donné Up de Yangzi.
Puis les gars, mentionnez-le, Dérapage. Dérapage, c'était dans vos films préférés.
Non.
disons que c'est le meilleur documentaire sur des accidents de char que j'ai vu cette année.
Mais du coup, c'était le pire aussi.
Ouais. Donc, l'actualité, ben c'est ça. J'ai pas vraiment suivi de près tout ce qui s'est passé cette semaine, mais il y a quelque chose qui m'a marqué. C'est la bande-annonce d'Anna Karenina. Cette nouvelle adaptation du livre de... Bon, je vais pas dire de conneries, c'est Tolstoï.
Tolstoï, ben oui. C'est juste un livre qui est souvent considéré comme un des plus grands romans de tous les temps.
Je le sais, mais j'allais dire peut-être Dostoïevski, mais en tout cas... C'est comme les deux grands Russes. Bon.
Mais tu sais que un peu la réputation de Anna Karenina de Tolstoï, c'est ça, c'est un film que un film. À ce prix qu'on parle trop de films. C'est un livre qui a été boudé un peu à sa sortie, qui a pas eu un effet retentissant nécessairement à sa période de sortie. Donc et bon, Tolstoï de son vivant avait été super populaire, avait été Guerre et Paix, avait été un classique instantané. Mais Anna Karenina était passée un peu dans le beurre et ça a pris des Nabokov et Dostoïevski qui plus tard ont vraiment dit que Anna Karenina était un des films un des livres majeurs puis qui les aurait vraiment vraiment influencés et donc c'est avec les deux autres grands auteurs russes qui plus tard dans le fond ont encensé le livre que justement on l'a réévalué. C'est fou comment que c'est comme ça pour beaucoup de chefs-d'œuvre hein. En cinéma là, plusieurs films justement là on parle vraiment de films. Donc plusieurs films qui à leur sortie justement tu sais sont un peu boudés, on comprend pas trop de où ça sort puis qu'est-ce que ça vaut. Puis plus tard tu as d'autres réals ou des grands critiques qui réalisent un peu la portée de ces grandes œuvres là, ouais. Et donc ils sont redécouverts.
Ouais, l'exemple clé étant 2001, l'Odyssée de l'espace, là, qui a failli ne pas rester dans les salles plus que quelques semaines.
Mm-hmm.
Non, c'est intéressant ce que t'apportes, Pascal.
Il y a des films que c'est fou comment... mettons, ils gagnent pas l'Oscar du meilleur film, comme Rémi, tu m'as conté là, que tu te signais avec quelqu'un là, qui parlait de qu'est-ce qui était meilleur entre The King's Speech et Social Network.
Ouais, c'est ça. Puis est-ce que j'étais juste à court d'arguments parce que... Ben, je sais pas, genre, me semble King's Speech, c'est un film qui est très oubliable. Là. C'est le genre de film un peu à la Driving Miss Daisy. Là. Dans 10 ans, ça va rester dans la pensée, même pas populaire, là, mais ça va rester dans la pensée parce que ça a gagné un Oscar. Mais je veux dire, c'est pas un film qui, sort des autres. Devient... C'est un bon film, mais c'est un film qui est normal. La réalisation est ordinaire, tout est ordinaire. C'est mais tu sais, Social Network, où c'est quand même, ça ressort, là, t'as vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire.
J'ai capoté, moi, sur Social Network. Je trouve que, je te l'ai déjà dit, Rémi, moi, je trouve que c'est le meilleur film / scénario que tu aurais pu faire avec une histoire comme ça.
Ben oui, c'est une histoire qui est pas si bonne. Tu sais, c'est genre, c'est une histoire, je sais bien que c'est sur Facebook puis que tout le monde est sur Facebook, mais c'est l'histoire du comment le gars a inventé Facebook. Tu sais, je peux dire, comment un gars a inventé une chaise. C'est quelque chose que j'utilise à tous les jours, mais c'est juste, là, il a tellement réussi à travailler l'histoire pour que ça soit intéressant. Puis...
Ah non, c'est fou, là. Comment tu veux rendre ça plus excitant que ça, là, toute la jeunesse de Facebook? Non, c'est un scénario absolument génial. C'est une mise en scène assez, selon les standards de Fincher, c'est une mise en scène un petit peu plus low profile, mais c'est tellement bien pacé.
Moi, je trouve que c'est un film mis à part une scène là, qui n'est pas très, très low profile.
Ouais, la scène avec le slow motion, puis Edvard Grieg. Là.
Ouais, le tilt photographie, puis tout. Là.
Ouais, en tout cas, bon. Mais regarde, ce que je veux dire par là, c'est que.
J'ai aucune idée de quoi vous parlez, les gars.
La scène de kayak, là, avec.
Avec les jumeaux, là.
Ouais.
Ah, oui.
C'est une espèce de scène qui m'a fait un peu décrocher, mais bon, ouais, c'est un excellent film.
Puis, en tout cas, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un film qui marque une génération, j'ai l'impression, puis qu'on va continuer à en parler beaucoup. Je peux pas non plus être prophétique à ce point-là, mais King's Speech. pour vrai, là, c'était comme tellement un choix aberrant, moi, je vais le dire, là, c'était aberrant. C'est un des moins bons des nominés cette année-là, j'ai trouvé. Puis, tu sais, comme, mettons, en 1980, là, c'est le film Ordinary People qui a gagné l'Oscar. Ordinary People, est-ce que tu sais, on en parle encore? En 1980, là, il y a Raging Bull qui était nominé, là, tu sais. C'est comme, mettons, en 79, c'est Kramer contre Kramer qui a gagné sur Apocalypse Now. Est-ce qu'on réécoute vraiment Kramer contre Kramer? Tu sais, pas tant, là, vraiment.
Mais non, à chaque fois, ça devient un peu comme des... excusez-moi l'anglicisme, mais des footnotes. Donc, des films finalement que tu dis, la seule raison pourquoi tu l'écoutes, parce que, il a gagné un Oscar à telle année, ou... Il y a comme aucune autre vraiment raison pour écouter...
Driving Miss Daisy, ça, c'est un bon exemple, parce que c'est juste un film. C'est juste un film plate. C'est juste pas un bon film.
Ouais. Les mauvaises langues, Citron Chicago aussi, mais bon.
je vais le défendre à mort, Chicago, là, sérieusement. Là.
C'est quoi qu'il y avait la même année que Driving Miss Daisy? C'était en 89?
En 89, c'est sûr que dans le cinéma foreign, t'avais, Cinéma Paradiso. T'avais en 89, t'avais le film Glory de Edward Zwick, le même réalisateur qui a fait La Samouraï, qui était quand même bon, c'est un film de guerre, là. Mais en 89,
il y avait Best Picture, il y avait Born on the 4th of July, il y avait Dead Poets Society, Field of Dreams, puis My Left Foot.
Ah, My Left Foot, c'est bien. Mais Crimes and Misdemeanors de Woody Allen était le meilleur film américain cette année-là, là, de tous ceux que j'ai vus.
Puis il était pas nommé.
C'est aussi Do the Right Thing cette année.
Ouais, Do the Right Thing. Ah, Sex Lies and Videotape aussi en 89.
Ouais.
Il y avait des meilleurs choix que j'avais Miss Daisy, on s'entend. Aïe.
Donc.
On a pas dérapé. Pourquoi on parlait de King
Speech? Jésus de Montréal était nominé aussi. Je suis sûr.
Ouais.
Ouais, c'est vrai, on dérape hein, aujourd'hui, c'est quand même.
C'est parce qu'on n'a pas de contenu. On sait pas de quoi qu'on parle.
Hey, tout le monde, on sait pas de quoi qu'on parle.
Cool. Hey, merci Pascal. Donc, tout ça pour dire que la bande-annonce d'Anna Karenina, nouveau film de Joe Wright, il retourne un peu à son champ d'expertise avec le film d'époque mettant en vedette Keira Knightley.
Je l'aime, Keira Knightley. Vous le savez que je l'aime, Keira Knightley.
Ben, moi, c'est une bonne actrice, là. Mais le film, vous en pensez quoi? Vous avez vu la bande-annonce?
Ben, moi, je trouve ça, c'est somptueux. Puis, tu sais, c'est Joe Wright, c'est vrai, comme tu l'as dit. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui font une expertise des films d'époque. Lui, c'est vraiment associé, là, tu sais. Je pense que ce qu'il a fait avec Pride and Prejudice, c'était magnifique. Puis, moi, Atonement, j'ai bien aimé aussi. Je trouve. Il n'a pas encore fait de chef-d'œuvre. Toi, Rémi, t'as revu le film Anna, hein, si je me trompe pas.
Moi, j'ai écouté Anna cette semaine. Puis, moi, j'étais allé un peu à reculons quand j'étais allé au cinéma. Tu sais, j'avais. En fait, le contexte, c'est que j'étais à Berlin. Puis, je voulais voir un film en langage original. Puis, c'était le seul qui jouait. Fait que j'étais allé un peu par défaut, là. Fait que j'avais vu la bande-annonce, ça avait l'air un peu colon comme film, parce que si vous avez vu la prémisse, c'est une petite fille qui est entraînée par son père dans le nord pour devenir comme une agente secrète, pas une agente secrète, mais tu sais, elle va pour se battre, puis survivre, la survie
de tout. C'est une histoire qu'on a vu plein de fois.
Vraiment, c'est une histoire vraiment conne, mais le film est tellement bien réalisé, c'est tellement réalisé avec goût, que finalement, c'est un super bon film solide, avec des scènes d'action tournant en plan séquence. Ça, on est habitué avec des espèces de scènes d'action à la Terminator, à caméra épaule, mais là, c'est vraiment des scènes d'action en plan séquence. Il y a une couple de scènes d'action aussi avec des montages très, très rapides, mais c'est de la caméra très contrôlée, puis c'est un film qui jette à terre. La photo est vraiment, vraiment magnifique. La direction artistique aussi, la musique, c'est de l'électro par Chemical Brothers.
Ouais, c'est
un film solide qui se tient, puis c'est peut-être une des seules fois qu'il a fait quelque chose en dehors du film d'époque, mais vraiment, là, ça frappe fort. Il a fait The Soloist, qui était ça, par exemple, ça, c'est le contrepartie, c'est peut-être son mauvais film, là, parce que c'est... Mais je pense que c'est plus le scénario qui est très médiocre que la réalisation.
Ouais. Mais Anna, c'est un bon showdown, désolé l'anglicisme, de metteur en scène, parce que on s'entend, le scénario est assez standard, merci. Là.
J'appelle ça, je vais pas diverger encore, mais j'appelle ça un peu le syndrome Robocop. Parce que Robocop, c'est le scénario le plus épais que. Ben, pas le scénario, mais tu sais, l'idée, c'est une police robot, mais c'est une idée complètement comme épaisse, mais le réalisateur est tellement talentueux en arrière que ça tombe que c'est un film qui devient culte. Anna, c'est un peu le syndrome comme ça, avec un scénario que entre les mains de n'importe qui, ça serait complètement mauvais. Là.
Parlant de Robocop et parlant de Paul Verhoeven, on a parlé de son film sur Jésus la semaine passée.
Oui.
Il y aurait un remake, un reboot, devrais-je dire, qui est dans les plans pour la franchise Starship Troopers, sans Paul Verhoeven, bien sûr.
Ouais, mais le 2 puis le 3, il était pas impliqué, je pense, là.
C'est de la merde, les autres, le 2 puis le 3.
Non, c'est vraiment pas bon, là. C'est vraiment, vraiment pas bon.
Parce que on dirait qu'il y a plein de monde qui ont pas compris que c'est une satire, ce film-là. C'est une satire, ça finit là.
Ben justement, le nouveau, il vise, les producteurs, ce que j'ai lu, il vise plutôt un rating PG-13, donc un peu moins violent et plus patriotique.
Plus patriotique?
Ouais, c'est ce que j'ai vu.
Écoute, c'était poussé à l'extrême, c'était suracide le patriotisme dans Starship Troopers.
C'était ironique.
Ben oui, c'est ça, c'était parodique, c'est ironique.
Donc, est-ce que c'est un film qui vous intéresse, un reboot de Starship Troopers?
Ben non, ce film-là est intéressant sans le génie de l'autoréflexion puis de l'autodérision. Là.
Ouais, c'est collé sur IMDb, c'est collé en 2012, ça s'appelle Starship Troopers Invasion. Oh, donc, je sais pas si c'est un reboot ou si c'est. Parce que dans le fond, le
3. Je pense pas que c'est 2012, ça va sûrement être repoussé parce qu'il n'est pas encore tourné.
Le 3, il est sorti en 2008.
Ouais.
On m'a dit par. C'est Hugo, en fait, qui m'a dit ça, Hugo Mérand, qui était sur un podcast il y a plusieurs semaines. Il m'a dit que le 2, c'est un des pires films qu'il a vu de sa vie, là. Fait okay. que je sais pas si vous avez vu les autres, là, le 2 puis le 3.
J'ai vu le 2, c'est effectivement vraiment pas bon. C'est encore là, ça perd son côté. C'est comme tout ce qu'il y a de mauvais, mais de drôle mauvais dans le premier, puis de intelligent mauvais dans le premier, et juste mauvais. Comme on dirait que les gens qui sont associés à Starship Troopers 2 ont pas compris l'espèce de le génie d'autodérision puis de satire là, bref, du premier film. Moi, j'étais un grand fan de Starship Troopers, vous le savez. Je pense que les trois, on aime beaucoup ce film-là.
Pour moi, c'est un des films les plus sous-estimés. Tu parlais tantôt de films qui, à la sortie, étaient un peu boudés. Il y a eu vraiment plein de mauvaises critiques à la sortie. Hein. Puis on dirait que le monde, il était pas sûr comment saisir le film. Puis j'ai l'impression que c'est vraiment au niveau des critiques américaines qu'il était vraiment pas sûr comme s'il fallait qu'il prenne au premier degré le film.
Mm-hmm.
Mais qu'à l'international, je pense que ce film-là a eu une meilleure réputation.
Ouais.
Puis à le redécouvrir avec des années de recul, on se rend compte qu'effectivement, tu sais, Paul Verhoeven, là, c'est pas.
Paul Verhoeven, c'est l'histoire de sa carrière parce que Showgirls, c'est un des films les plus bâchés de l'histoire, mais c'est une
partie. Même Robocop à l'époque, ça a été assez spécial. Puis des années plus tard, il y a une version Criterion de ce film-là qui est sortie. Il y a comme constamment un travail de réévaluation de son œuvre, particulier.
Mais Showgirls, il est dans le bottom de IMDb. Là, encore aujourd'hui, il n'y a personne qui comprenne ce film-là. Puis Paul Verhoeven le dit en entrevue, là, c'est pas juste se défendre, mais c'est vraiment une parodie qui a fait une genre de parodie, une vraiment comme Starship Troopers.
Il y a des gens qui comprennent pas ça.
Il aurait fallu qu'à la fin de Showgirls, il y ait Brad Pitt qui regarde la caméra et qui dise « This might be my masterpiece.
» Mais il n'y a pas Robocop aussi. Il y a Robocop qui s'en vient aussi, un autre reboot de ça, non?
Ah, ça, je ne sais pas.
Oui, puis pendant un bout, Darren Aronofsky était associé au projet.
Oui. Je sais pas, c'est rendu quoi le statut de Robocop, dans le fond, là?
On sait que Darren Aronofsky, lui, il fait son projet de Noah... sur l'argent de Noé à comme 150 millions puis qu'il y en a pour peut-être un an là-dessus. Donc je ne sais pas ce qui se passe pour Robocop par contre.
Mais le casting est déjà confirmé sur IMDb, puis dans le casting il y a Gary Oldman puis Samuel Jackson qui sont confirmés. Il y a le gars qui ferait Robocop, ça serait Joel Kinnaman, que j'ai aucune idée c'est qui en fait là.
OK.
Il a pas l'air d'avoir fait de trop gros films encore, mais voilà.
C'est qui le réalisateur qui est associé à ce projet là en vrai?
Attends un peu, je vais regarder. C'est José Padilla. José Padilla.
Qu'est-ce que...
Il a fait le film Elite Squad.
Ça, c'est pas n'importe qui, là.
Ah oui?
Les deux Elite Squad, c'est des méga hits dans leur pays d'origine, au Brésil.
C'est des films brésiliens. C'est des super hits, ces films-là. J'ai pas vu, par contre, mais...
Moi non plus, mais je sais que c'est
l'émission
aux Oscars du Brésil.
Mm-hmm.
Donc, quand même, Crime Robocop, ça peut être pas si mal. Donc, on attend en 2013. Une nouvelle, peut-être, qui va réjouir les fans... je ne sais pas si vous êtes au courant, Marvel a été racheté il y a quelques années par Walt Disney, une transaction de plusieurs milliards de dollars. Transaction qui, jusqu'à présent, a fait le bonheur de Disney avec le succès des Avengers.
Ouais.
Et là, finalement, aujourd'hui, ça a été annoncé qu'il y avait un plan pour faire un film d'animation avec l'univers de Marvel. Donc, un film de Walt Disney qui serait sur le groupe Big Hero 6. Et Big Hero 6, c'est un peu comme un errat de les Avengers, mais au Japon.
Mm-hmm.
Donc, le leader de ce gang-là s'appelle le Silver Samurai, le samouraï d'argent. Et il y a d'autres super-héros avec eux. Alors, ça va sûrement être un test, j'imagine, pour Walt Disney, voir si c'est possible de faire coexister les deux univers. Mais si ce film-là marche, on risque bien de voir des reboots d'animation dans tous les sens.
C'est comme le gang que tu passes, c'est un peu comme la mode Power Rangers, là.
Ben,
ça... l'espèce les Saiyans là, qui appellent ça là, que c'est comme il y a plusieurs classes de Saiyans là, au travers des années puis serait comme Spider-Man versus le Power Ranger rouge ou
ben écoute, j'en ai vraiment aucune idée, je suis pas très très versé dans l'univers de Marvel, peut-être que notre correspondant Philippe Bouchard pourra nous informer là-dessus, nous éclairer sur le Big Hero 6. Mais voilà, alors, ça vous dit, les gars, un film d'animation dans l'univers de Marvel?
Moi, je suis vraiment tanné, là, je t'avouerais, là. Je, les super-héros, là...
Ben, c'est que c'est ça, ça reste toujours.
C'est que c'est la même histoire, on dirait. C'est que c'est tout le temps un personnage...
Il est low-profile.
Low-profile, il a ses super-pouvoirs, mais tu substitues un super-pouvoir par un autre, puis t'as à peu près le même film, puis tu fais juste changer un peu le setup, puis tu changes un peu le sidekick féminin pour une puis pour l'autre, puis finalement, ils se ressemblent tous parce qu'ils ont tous aucune personnalité, les filles, dans ces films-là. C'est vraiment, là, vraiment, sérieusement, faut que ça arrête. Moi, je dis cash comme ça. Là.
Pour avoir un bon film de super-héros, faut que tu aies un petit edge qui est différent. Bon, tout le monde a trippé Avengers. Nous autres, je pense qu'on a eu... Nous autres, on a eu notre consensus. Ben, vous autres, vous l'avez eu. Moi, je l'ai eu comme à côté, là, mais je l'ai vu Avengers. Puis bon, c'était le fun, mais c'était comme toutes les autres, on s'entend. C'était encore la suite de tous les autres.
Ouais, mais il y avait 5 super-héros.
Ouais, ok.
C'est 5 fois plus de plaisir.
Mais tu sais, comme quand tu trouves un petit edge supplémentaire, genre Kick-Ass.
Kick-Ass, c'était cool.
Kick-Ass, il y a un petit quelque chose de plus, tu sais. Il y a un petit peu. Tu sais, le petit edge, je pense qu'on recherche en plus. Puis je sais pas, c'est juste essayer de trouver quelque chose qui est un peu différent. À Mad Nice, parce que les super-héros ont fait le tour.
Puis j'en reviens avec Iron Man, puis à Jon Favreau, puis son approche. Tu sais, un peu plus d'impro, puis il laissait vraiment le personnage parler. Puis pourquoi
ben, c'est dans ce cas-là, l'acteur a parlé.
Oui, c'est ça, l'acteur parler, parce que c'est ça, il faisait beaucoup d'impro avec Robert Downey Jr. Puis ça, c'était différent, parce que là, t'as une performance de comédien plus complexe, plus étoffée, autour d'un super-héros qui sont à la base souvent des personnages très banals, on s'entend. Là. À part leur super-pouvoir, là, c'est bien rare qu'ils ont des gros dilemmes et que c'est des personnages comme psychologiquement intéressants. Là.
Ou c'est de trouver un réalisateur qui a vraiment une signature qui peut apposer au personnage puis que les studios l'arrêtent pas. Tu sais, genre Christopher Nolan qui a quand même mis sa signature à Batman.
Ouais.
Ça, je trouve que c'est déjà quelque chose de plus qui est apporté. Tu sais, là, ils ont essayé avec Michel Gondry qui fait Green Hornet, ouais. mais Michel Gondry a pas pu apposer sa signature. Exactement. Fait que c'est juste... C'est un autre film de super-héros. Il y a peut-être deux séquences dans tout le film où ça file minimalement Michel Gondry. Mais tu sais, imagine, demande à Woody Allen de faire un film de super-héros. Non, je n'y ai pas. C'est une blague.
Non, mais Wes Anderson.
Wes Anderson qui fait un film de super-héros. Oui, ça serait comme...
Ben, on sait déjà que Edgar Wright travaille sur Ant-Man.
Ouais, c'est pas mal
confirmé que ça sera en production cette année ou l'année prochaine.
Ça fait longtemps qu'il en parle, ouais, puis il en a parlé dans un podcast avec Kevin Smith, un peu de qu'est-ce qui s'en vient. Pour l'instant, le projet est juste encore en discussion. En fait, le podcast date de 2010-2011, fait que ça fait déjà un moment.
Mais il a tweeté il y a quelques semaines une image justement de Ant-Man, donc c'était comme un très gros Edgar Wright lui-même. Donc c'était quand même un très gros indice pour dire qu'il y a
ça se fait là. Ouais. Parce que Edgar Wright, il a sa signature, puis il a posé à Ant-Man, ben, tu sais, voilà, on a quelque chose qui est trippant, là. Mais tu sais, si c'est encore un réalisateur inconnu qui est juste comme une popette du studio,
ouais.
on s'en calisse, là. Excusez-moi le sac, là, mais là, je l'ai amené, là.
Rendu là,
je suis avec toi. Ça fait beaucoup, là.
Non, mais c'est mon point, puis on a peut-être vraiment un parti pris positif vers l'espèce de théorie de l'auteur, puis la... On est peut-être très porté sur le réalisateur ici au podcast, mais je peux juste vous rejoindre sur ce point-là, en particulier avec les films de super-héros, parce que, tu sais, nommez-moi le réalisateur, mettons, de Incroyable Hulk. Tu sais, on ne sait pas c'est qui, puis on s'en rappelle plus de ce film-là.
Ben, le 1, c'était Ang Lee.
Ouais, le Hulk, oui, mais l'Incroyable Hulk, le reboot qu'ils ont fait.
Mais ça, en plus, que c'était quelqu'un qui avait quand même fait autre chose, ça se peut-tu?
Ben, il a sûrement fait autre chose. Je pense pas qu'ils ont donné 100 millions à quelqu'un qui a.
Non, excusez, il fallait pas le nommer. C'est le gars qui a fait. Clash of the Titans puis le transporteur.
Ouf.
Bon. Et puis tu sais, mettons, je sais pas moi, Daredevil. C'est qui a réalisé Daredevil?
Oh my god, quel moment.
Qui a réalisé Ghost Rider ou tu sais.
Check, tu vois, un de ceux qui sort de la masse, c'est Spider-Man. Puis c'était Sam Raimi.
Ouais.
Ben lui, en plus, il a parti un peu cette vague-là.
Exactement.
Parce que
le c'était premier un des X-Men, premiers. Puis le premier Spider-Man, c'était novateur. Moi, je me rappelle du temps là, quand j'étais allé voir le premier X-Men au cinéma. C'était hot, là. T'avais les super-héros live, puis tu sais, les effets spéciaux étaient assez évolués pour justement permettre une certaine magie avec du live action.
Ben, faut dire que t'avais 13 ans aussi.
Là. Ouais, faut aussi, mais tu sais, je me rappelle, le premier Spider-Man, c'est 2002. Hey, ça fait 10 ans, là, que systématiquement, on a peut-être 4 films ou 5 films de super-héros par été, là. Ça fait beaucoup, là.
Ben, peut-être pas 5, mais il y en a au moins un ou deux.
Hey, moi, je serais curieux.
Ben, quand
curieux.
Même,
moi,
quand
je pense
même.
Que c'est facilement 5.
Hey, puis, excusez, je suis allé voir Daredevil, c'est qui l'a fait, là? Puis ouais. Le gars qui a fait Daredevil a fait aussi Ghost Rider.
C'est
le même réalisateur.
Hey, c'était pas du tout prévu, hein? J'ai aucune idée. Ah, mais il y a quand même une signature, tu sais, dans les films de super-héros confidentiels qu'on oublie, là.
Ben oui, il fait des très mauvais films. Puis, il a écrit le film Jack Frost, tu sais, le film Weird avec Michael Keaton, puis il y a un bonhomme de neige, là. Bon, ben, il a écrit ça.
Hey, c'est
un très mauvais film.
Oh, man.
Mais donc, si je comprends bien votre point, c'est un peu que vous êtes tanné des films de super-héros et la même formule.
Je serais pas tanné des films de super-héros, mais si c'était juste comme un peu différent, là, s'il y avait comme juste quelque chose de différent dedans, je prendrais le film de super-héros. Comme je disais, Kick-Ass, c'était pas. Puis en plus, Kick-Ass, c'était un nouveau super-héros, c'était pas comme adapté de. Ben, je sais pas, il y a peut-être une BD avant, là, mais tu sais, c'était pas une grosse BD, genre, justement, là, Hulk, Spider-Man, puis on fait la liste, puis on check la liste, là, on a-tu fait le tour de la gang de Marvel, la gang de DC, là?
Mm-hmm.
Mais, OK, et ce soir, à 8h, en fait, lundi soir, donc quand vous allez écouter le podcast, les auditeurs, ça va être passé, mais ça va être déjà sur tous les cinémas, mais il y a The Amazing Spider-Man qui sort 10 ans après Spider-Man de Sam Raimi. Et le tagline, c'est « The Untold Story Begins ». Donc, qu'est-ce que vous en pensez, ce Spider-Man? Un reboot.
Non.
Spider-Man 3, c'est 2007. Ça date d'il y a 5 ans.
Ouais.
Moi aussi, je veux vous dire, vous savez, je suis un grand fan de Sam Raimi. Puis ouais. Il fait la touche un peu indie. Puis il fait un peu ce qu'il veut avec la caméra. Puis il y avait sa signature. Puis c'est ça, ouais. Le Spider-Man, ça a starté. Puis dès qu'on a vu les premières bandes-annonces, c'était comme, voyons, il me semble qu'on a vu ça il y a 10 ans. Il me semble que j'ai eu... Le même feeling, tu le vois dans le laboratoire avec l'araignée, puis tu fais piquer, puis tu vois exactement
ces scènes. The Untold Story, Rémi.
The Untold Story.
T'écoutes pas?
Ben, c'est ça, puis ils ont tradé Mary Jane pour l'autre personnage féminin. Je suis pas assez geek de Spider-Man pour les nommer, là. Gwen Stacy. Fait qu'ils l'ont. Je suis pas assez geek, mais je l'ai nommé. Mais tu sais, ils ont tradé pour l'autre personnage féminin, puis. Je sais pas, là. Genre.
Sauf que là, c'est Mark Webb qui a eu du. Son gros succès avec 500 Days of Summer, donc c'est pas n'importe qui.
C'est un bon réalisateur, ça touche indie, puis ouais. Puis tu sais, je veux dire, il y a le nom de famille qui fit avec Spider-Man, là. C'est un petit jeu de mots, là. Ouais. Mais je sais pas. Pourquoi ils font ça, là? Pourquoi ils rebootent déjà?
Est-ce que tu crois sincèrement qu'on va attendre 30 ans avant d'avoir un nouveau Batman?
Ben non, puis le pire, c'est que je le sais. Tu sais, Spider-Man, c'est la bébite qui rapporte le plus dans tout l'univers de Marvel. Là. C'est le personnage le plus connu. Fait que c'est sûr qu'ils font un film de Spider-Man, ils vont avoir des fils et des fils de monde qui vont vouloir aller le voir.
Encore t'sais, un jeu de mots, Rémi, des fils.
Oh!
t'es en
feu. Ben oui, puis tu sais, ils veulent attirer le public dans leur toile, là, c'est ça, là.
T'es en feu.
OK, non, mais...
Écoute, quelle mouche t'as piqué?
Non, mais pour vrai, là, c'est pour vrai, moi, je ne peux pas être moins excité par Spider-Man, par le reboot de Spider-Man. C'est comme mon excitometer, là, il est comme dans le rouge.
Le pire, c'est que ça se peut que ça soit vraiment bon. Ça se peut que ça soit vraiment bon, mais j'ai juste pas d'intérêt. J'ai juste pas d'intérêt à aller revoir ça, à aller revoir ce film-là. Chez nous, là, dans ma collection, là, j'ai Spider-Man 1 puis 2, puis je vais les écouter, puis je vais être vraiment content.
Ben, moi, je vais quand même aller le voir, Spider-Man. J'ai quand même envie de le voir. Parce que pourquoi? Je sais pas. Parce que c'est Spider-Man, puis que crime, les annonces sont efficaces, là, veux pas, mais.
Tu tombes dans le moule.
Ouais, je sais. Mais par contre, je suis vraiment pas aussi excité que je l'étais pour. Bon, The Avengers, j'étais pas si excité que ça, mais Dark Knight Rises, là, la trilogie de Nolan, qui s'achève en juillet, dans 3 semaines. Ça, je suis d'autant plus excité que le nouveau Spider-Man.
Mais le pire, c'est que je suis sûr que ça doit être bon. C'est un bon réalisateur qui est en arrière, les acteurs. Tu sais, Andrew Garfield, il est bon, puis il fit vraiment comme Peter Parker. Je trouve quasiment qu'il fit, fit plus comme Peter Parker que Tobey Maguire fitait, là. Ben, d'après moi, là, il me semble qu'il y a vraiment plus le look, la shape, puis il a plus l'air un peu geeky pour fitter, puis...
Mais ce que j'aurais vraiment aimé, c'est vraiment... On le sait, là, l'univers des comics, là, c'est tellement gros. Là. Il y a eu tellement une version de Spider-Man, puis il y a tellement une version de Batman. T'sais, Nolan est allé chercher une histoire qui était vraiment différente des Batman de Tim Burton. Fait que ça dérangeait moins. Puis bon, c'est sûr qu'il y avait plus que 5 ans qui étaient passés entre les deux. Mais c'est ça que j'aurais aimé, c'est qu'ils reprennent pas exactement le même
trame narrative. C'est normal, les refactures. T'sais, Batman, je veux dire, il y a eu combien de séries télé, il y a eu combien de séries en live action, il y a eu combien de films, il y a eu combien de projets dérivés. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un empire. C'est normal que l'empire génère tous ces dérivés-là, tu comprends? Mais c'est qu'à un moment donné, tu veux que les dérivés se complètent, mais pas qu'ils se ressemblent. T'sais, parce que là, The Amazing Spider-Man, je comprends pas la twist qu'ils vont y donner pour le rendre différent. À part que c'est un peu british.
Il y a des web shooters, là.
Qu'est-ce que c'est ça?
Au lieu de lancer des vraies toiles, il y a comme dans les bandes dessinées, il y a des trucs sur les poignets qui lancent des toiles.
Okay. Il a comme construit lui-même un mécanisme.
Ouais. Il est vraiment bon, puis il se construit ça, lui. Dans... C'est un peu comme Iron Man qui se construit un suit en métal dans sa caverne, là. Ouais. Mais c'est juste qu'Iron Man, ben, c'était le fun. Mais tu sais, le nouveau Spider-Man,
si je comprends... Il y a vraiment amélioré par rapport à la version de Raimi. Ça serait peut-être de pas foutre une toune de Nickelback à la fin.
Ouais. Effectivement. Puis l'autre affaire, c'est qu'ils essayent de tout mettre réaliste puis dark. Puis là, c'est ça qu'ils ont essayé de faire. Ils ont stanné Spider-Man comme si c'était vrai. Sam Raimi, c'était un cartoon. Puis c'était une bande dessinée vraiment qui adaptait. Puis il était très conscient de ça. C'était très coloré ce qu'il faisait. Là, il essaye de vraiment faire ça, le réaliste. Puis c'est un peu effrayant avec le lizard. Là, c'est comme.
Ça, je sais pas.
Ouais. Ben oui, oui. C'est, d'après moi, oui. Là, de tout ce qu'on a vu en fait avec les bandes annonces, c'est plus sombre. C'est plus...
Vous savez, les gars, c'est quoi le meilleur film de super-héros qu'on a jamais vu? Le Superman, de Kevin Smith.
Eh hey boy.
Non. Alors, Rémi, parle-nous en du Superman de Kevin
Smith. Ben, Kevin Smith fait un monologue, en fait, qui parle de ça. C'est toute son l'histoire où il était... Il avait été commandé d'écrire un script sur Superman, puis... Il y avait des règles vraiment complètement absurdes qu'il fallait qu'il suive. Il était allé voir le producteur qui est Peter... C'est quoi déjà, Pascal?
Je sais pas par cœur.
C'est le producteur qui avait produit les...
Wild Wild West.
Wild Wild West. Les Batman de Tim Burton aussi, c'était lui. Fait que Kevin Smith est allé le voir. Puis vraiment, le gars, comme les règles, il disait « Je veux pas qu'il vole. Je veux pas qu'on le voit dans son suit. Puis je veux pas qu'il... c'est quoi? Il y en avait un autre... Ah ouais, ben je veux qu'il y ait une araignée géante dans le film qui sort de grosses portes, un peu comme King Kong, tu sais, dans King Kong. Il voulait ça. Fait qu'il fallait que Kevin Smith écrive un script avec ça. Genre, I don't want him in the suit. Je veux pas l'avoir dans le suit. C'est complètement absurde. Fait que Kevin Smith, il a écrit ça, puis mais finalement, c'était Tim Burton qui est embarqué sur le projet après pour rebooter la série Superman, puis Kevin Smith a été tassé du projet. Mais vraiment, il y a un monologue sur YouTube de Kevin Smith qui dure à peu près 20 minutes, puis c'est lui qui raconte toute cette méga histoire-là. Je peux pas le faire, je peux pas
rendre... La folie de Hollywood, là, la folie des producteurs puis des gros contrats.
Mais là, on a Superman, en fait, qui s'en vient cette année aussi, là, comme pour pousser pas encore année, la... C'est pas cette année, c'est l'an prochain, je pense. Hein. Ouais, c'est ouais. Ça. Mais c'est Zack Snyder, on s'entend que c'est quand même... Pas, je veux dire, moi sérieusement, là, je déteste les films de Superman. Je suis peut-être une aberration de ce que je dis là pour les grands fans, là, mais j'aime pas les vieux Superman. Je trouve vraiment ça plate. J'aime pas le Superman Return. Je trouve que Superman, c'est trop facile tout le temps pour lui. Tout le temps, il arrive en volant, il sauve la personne, touche à de la kryptonite, ça marche plus. La kryptonite est rendue loin de lui, ça marche, il sauve le monde, fin. Tu sais... Je suis pas capable, Superman. J'ai vraiment de la misère à triper ce super-héros-là. J'embarque juste pas dans le trip. Mais Zack Snyder, qui est en fait celui qui nous a donné 300, puis Watchmen, puis je pense quand même qu'il peut faire de quoi d'intéressant avec. Puis il y a déjà des photos qui sont sorties, puis ça augure bien quand même.
Ben
ça
Zack Snyder, c'est pas comme le parfait artisan que quand tu lui donnes de quoi, là, tu dis exactement quoi faire, il va te faire vraiment de quoi très bien avec ça. Comme 300, c'était pas lui, là. C'est adapté d'une bande dessinée de... Bon, j'oublie son nom, là, mais...
De Frank Miller?
C'est ça, Frank Miller. Donc, il y avait déjà comme vraiment un storyboard. Il y avait vraiment comme... Il savait quoi faire. Puis, il l'a très bien réalisé.
Watchmen, quand même,
pareil, là, tu sais.
Mais Zack Snyder a quand même une esthétique quand même à lui, là. Je veux dire, il y a des... Tu peux vraiment faire des liens entre 300 puis Watchmen. Puis, il avait réalisé aussi le remake de Dawn of the Dead qui était superbe, là. Tu sais, c'est comment rendre hommage à Dawn of the Dead sans piler dessus, sans le piétiner, c'était
donc vraiment bien. Je pense que c'est ça, qu'avec Christopher Nolan en espèce de parrain et producteur du projet, Man of Steel, le reboot de Superman, je pense que ça s'annonce très très bien.
Ouais, puis il y a une photo qui est sortie qui est fantastique, là. On voit comme Superman avec un coffre-fort défoncé en arrière, puis ça a vraiment l'air de quelque chose qui va frapper fort. Là.
Donc, bref, tout ça pour dire... C'est la fête, c'est la fête à Lindsay Lohan aujourd'hui, elle a 26 ans.
OK.
Bon. Cette semaine, Pascal, tu as écouté American Movie sur une chaîne de recommandation de Rémi Fréchette.
Ouais.
Ben, je peux-tu juste introduire? La semaine passée, j'étais un peu insulté. Parce que on met les highlights dans les titres, c'est Paul qui s'occupe de ça. Puis American Movie n'a pas été highlighté et je sens que c'est un film très important que tout le monde doit voir. Donc, j'ai dû amener Pascal de mon côté et j'ai présenté American Movie. Et Pascal,
ah, man,
c'est à toi.
C'est effectivement vraiment à voir. Écoute, c'est... Bon, nous autres, on est peut-être un peu biaisés parce qu'on est, dans le milieu du cinéma. Là. Je sais pas à quel point c'est un film qui est grand public. Puis tu recommandes pas ça, tu sais... Je sais pas si ma mère, elle aimerait ça, là, tu comprends? Mais en même temps, dans un monde cinéma, je pense que c'est un incontournable. C'est un documentaire, ben, comme Rémi en avait parlé la semaine passée. En gros, ça se passe à Milwaukee. T'as une espèce de réalisateur redneck, là, tu sais, vraiment, qui a rien pour lui, tu sais, c'est ça. Là, comme t'as dit, Rémi, sa mère croit pas à ses projets. Mais en même temps, tu sais, tout le monde est autour de lui, il est tellement inerte. Puis lui, il a comme une grosse passion, il veut faire ses films, puis là, il veut faire un long métrage, ça chie, ça marche pas, il finit par finir un court métrage. Que ça fait 2 ans qu'il est sur la glace puis qu'il n'est pas capable de finir. Le gars, c'est comme, c'est un concierge. C'est ça, Rémi, qui fait, genre, dans la vie?
Il est concierge dans un salon funéraire.
Quoi, c'est ça. Puis, tu sais, c'est juste vraiment un beau film sur faire des films, mais tu sais, c'est sur une passion. Puis, en même temps, il y a plusieurs... Les personnages sont tellement colorés, là, parce que tu disais la semaine passée, Rémi, le mot personnage, c'est des personnages, on s'entend, là. Tu sais, il y a un ami stoner qui s'appelle Mike, là. Puis, tu sais, on dirait un personnage... On dirait vraiment, genre... Silent Bob, là, où je sais pas trop. Là, on dirait un personnage qui sort d'un film de Kevin Smith, mais il est vrai, comme il existe. Il est juste comme on dirait qu'il y a tellement de neurones de brûler par la dope que, tu sais, il est là, puis il parle comme Hey man, I'm gonna help you tonight with your movie. Puis tu sais, comme il parle comme ça, mais c'est. En tout cas, mais en bout de ligne, c'est tellement un beau film sur l'amitié, puis le gars, il est juste vraiment là, puis. Mettons, comme par exemple, lui, il prend l'argent de son vieil oncle qui a plus rien pour vivre, qui a vraiment plus rien pour s'accrocher à la vie. Puis, comme Mark Borchardt, c'est ça son nom, Rémi?
Oui.
C'est Mark Borchardt, il fait juste pousser tout le monde à se bouger le cul autour de lui. Puis, il y a quelque chose d'inspirant dans ce film-là. Puis, même si tu le sais que ça ne marchera pas vraiment comme il veut, ses affaires, puis, mais il y a quelque chose de vraiment. En tout cas, puis c'est. Un film qui est super drôle, c'est une excellente comédie. Il y a des quotes dans ce film-là, il y a des personnages dans ce film-là. C'est vraiment, vraiment conseillé. C'est effectivement un film qui est majeur. T'sais. C'est un documentaire vraiment gros. C'est juste gros. Puis voyez-le, c'est magnifique comme film.
Ben c'est juste trop. Ça a juste trop passé inaperçu maintenant. Il n'y a plus personne qui parle. T'sais, c'est sorti en 99.
Ouais, mais déjà les documentaires, je
veux dire. C'est ça. Ben, puis ça s'efface vite, les gens oublient vite. Puis c'est un film que le monde parle pas. Puis il a fallu vraiment que j'en entende parler par quelqu'un t'sais, au travers d'Internet pour savoir que ça existait. Puis c'est juste trop bon. Là. C'est trop bon. Je l'ai réécouté avec Pascal une semaine après l'avoir écouté, puis je le réécouterai là, encore aujourd'hui là, si on voulait l'écouter. Là.
Ce qui est rare hein, pour un documentaire, d'avoir un facteur de réécoute aussi fort, en fait. Hein.
Juste vous en parler, ça me fait penser un peu à The King of Kong. Je sais pas si vous avez vu ce documentaire.
Ah oui, c'est bon, ça.
Oui, c'est bon, c'est drôle, ça.
Puis ça, c'est le genre de documentaire justement que je réécouterais tout le temps, puis que je ferais découvrir à des amis, puis je trouve ça super bon comme documentaire.
C'est ça, ben, The King of Kong, ben, on peut en parler un peu vite vite. Là. C'est l'histoire, en fait, toute l'espèce de dessous underground de l'industrie des jeux vidéo, mais pas jeux vidéo là, mainstream, grand public, c'est les jeux d'arcade.
Salles d'arcade, là, ouais.
Les jeux d'arcade classiques, puis là, c'est autour d'un record mythique de l'arcade de Donkey Kong, donc un des jeux considérés comme un des plus difficiles, justement, puis un des jeux que tu peux rarement te rendre jusqu'au bout, puis bon. Et donc,
c'est pas des jeux vidéo qui ont été créés pour être finis, en fait. Là. C'est ça. À l'époque de l'arcade, tu mettais des 25 cents pour continuer à jouer. Puis c'est ça, c'est pas un jeu qui avait une finalité. Donc les développeurs n'avaient pas prévu que les gens allaient essayer de battre des records comme ça. Puis c'est drôle, il en parle dans le film, justement. À un moment donné, c'est parce que tu as une limite, je pense, c'est 100 000. Tu sais, comme 99 999.
Ouais, c'est ça. C'est
après ça, ça recommence à zéro si tu continues quand même ton score. Fait qu'il fallait que le monde compte le nombre de fois que le score recette. C'est là que tu pouvais calculer ton total de points, tu sais.
C'est ça, c'est ça. Puis dans The King of Kong, mais c'est parce que c'est vraiment construit comme une espèce de duel épique, tu sais. L'histoire classique du underdog, tu sais, qui veut battre le record, puis t'as comme... la tagline du film, c'est genre « What happens when a winner who has it all doesn't want to lose ?» And a loser wants to... T'sais, c'est un peu... je l'ai raté, là, mais en gros, c'est un clash entre un loser qui veut gagner puis un winner qui veut pas perdre, tu sais.
Ben, c'est vraiment, en fait, le Rocky des jeux d'arcade.
Exactement, c'est ça, exactement.
Ouais, c'est vraiment bien dit, ça.
Mmh. Mmh.
Le Rocky des jeux d'arcade.
Mais ouais. C'est un bon film, c'est super entertaining, en plus. Puis tu cheers pour le gars, là, tu veux qu'il batte l'autre prick, là, parce que le gars qui a le record, c'est un espèce de salaud, un peu.
Puis, non, mais en même temps, ça c'est justement... C'est tout, il y a vraiment beaucoup de controverses autour de ce film-là, parce que c'est un peu, justement, le choix du c'est là qu'on peut voir la
manipulation. Pouvoir
et, c'est ça, la manipulation et le pouvoir d'un éditeur et d'un documentariste. Le gars, justement, qui agit comme l'antagoniste dans le film, a quasiment voulu poursuivre la production, puis il a vraiment dit, tu sais... Je pensais pas moi qu'il allait me faire un tel portrait de moi, puis je suis pas de même, puis écoutez, je veux me remettre les faits, tout ça, puis il y a eu plein d'articles, il y a eu vraiment un gros suivi, entre autres, sur le blog slashfilm.com, sur cette histoire-là, et puis même après que le film soit sorti, ils ont continué à se battre leurs records mutuellement, donc non, c'est ça, King of Kong, pour vrai, c'est en tout cas, King of Kong et American Movie, c'est deux des documentaires à voir, si vous avez toujours pas vu.
Je veux faire une petite comparaison aussi à American Movie, c'est un peu, OK, c'est pas ça totalement, mais c'est un peu, tu sais, dans le sens de Napoléon Dynamite, parce que c'est un film que plus que tu regardes, plus que c'est drôle. Tu sais, même la fois, c'est que Napoléon Dynamite, la première fois, c'est pas si drôle. C'est plus comme quand tu le vois après que c'est plus drôle. Mais c'est vraiment, tu sais, plus tu le regardes, plus tu connais les citations, plus le film devient le fun, puis c'est le fun à écouter en gang. Fait que, ouais, très recommandé.
C'est vrai,
c'est ça. J'en parle pendant deux semaines, faut que ça soit recommandé.
Oh, ouais, vraiment. Puis tu viens de le dire, écouter en gang, c'est un des documentaires avec peut-être The King of Kong que j'aurais plus de facilité à écouter avec mes amis, là, n'importe quand, une soirée avec la bière, ou tu sais, vraiment relax.
C'est parce qu'après ça, avec ta gang d'amis, tu peux te coller les quotes puis les citations. Tu peux parler des citations puis revenir là-dessus.
Un film qui est comme ça, c'est The Big Lebowski aussi. Ça, c'est un autre film la première fois que je l'ai vu, j'ai beaucoup aimé d'un point de vue mise en scène. Je trouve que les Coen, c'est absolument génial, leur travail de mise en scène dans ce film-là. Mais c'est pas un film qui m'avait fait rire à gorge déployée nécessairement la première fois que je l'ai vu. Puis ça, c'est un peu low profile, c'est un humour un peu étrange là, dans The Big Lebowski. Bon, c'est sûr qu'il y a des moments qui sont instinctivement drôles, mais en bout de ligne, ce n'est pas tant que ça. Mais quand je le réécoute, puis moi, je suis un grand fan de ce film-là, puis je le réécoute quand même assez souvent. Puis là, c'est juste... Tu sais, le fun, c'est de dire les lignes avant qu'ils arrivent. Puis le fun, c'est les personnages sont tellement colorés que tu t'embarques dans son univers. C'est comme si tu retrouves tes vieux potes. Quand t'écoutes The Big Lebowski, là, c'est comme si tu hang out avec tes vieux amis, là, tu sais, une autre fois, tu sais.
Bien dit, ouais, non, moi, la première fois j'étais confus aussi, les Big Lebowski, j'avais pas compris ce qui se passait, j'étais assez jeune quand je l'ai vu, là, puis je comprenais pas l'humour, là, je comprenais pas les gags, là, puis voyons pourquoi il dit ça, puis je pensais, j'étais pas encore super super bon en anglais aussi, c'est sorti quand même en 99, je pense.
98,
fait que tu sais, moi j'ai vu ça, je suis comme peut-être au début du secondaire, j'étais pas super calant en anglais. Puis je vois ça, je comprenais rien. Voyons, c'est quoi ce film-là? Puis à cette heure, ben, c'est rendu un de mes films préférés, là, justement. Là, c'est comme... c'est vraiment massif là, comme film. Là. C'est un gros film.
Mais American Movie, déjà, c'est ça, je l'écoutais avec Rémi, puis là, on se lance des points d'American Movie. Là, c'est comme... c'est un exemple concret vraiment drôle. En tout cas, je vais essayer de le compter, je vais essayer de le rendre drôle, mais tu sais, des fois, quand tu racontes un gag d'un film comme ça, c'est vraiment pas drôle, finalement, fait que ça tombe à plat, mais je vais quand même m'essayer de le compter. Tu sais, là, t'as le réalisateur, OK, qui est là, puis que, tu sais, il y a aucun figurant qui se pointe sur son plateau, puis là, ça va tout croche, les affaires, puis là, il est là, puis il demande à sa mère de se mettre dans une espèce de robe pour jouer comme une quelqu'un d'une secte. Tu sais, sa mère, elle a pas envie, puis tu sais, là, finalement, il
essaie de... Elle dit, I have so many things to do, I need to do grocery, and...
C'est ça, puis là, lui, il est là, puis il convainc sa mère, genre, Mom, I'm doomed, you've gotta come, I'm doomed. Fait que là, t'sais, finalement, sa mère, il va, tu sais. Là, t'as son ami super stoner qui est toujours là, puis là, le réal, il est full stressé, il y a rien qui va comme il veut. Puis là, genre, il est là, puis il court partout, puis il dit à son ami stoner, hey, Mike, make sure everybody has their brown gloves. Là, t'as Mike qui est comme, does anybody have their brown gloves? Il fait juste le dire comme ça.
Juste
comme...
en arrière-plan.
Il fait juste répéter ça. Mais ça a l'air niaiseux de même. Comme je te dis, c'est ça, c'est pas drôle quand tu le comptes.
Mais ça a l'air un peu d'un Be Kind Rewind, mais en vrai.
Pas vraiment.
Pas tant, non. Pas tant. Puis Be Kind Rewind, oh man, Be Kind Rewind, j'ai pas aimé.
Moi, j'ai pas trippé fort.
Ouais.
Bon. Donc, American Movie et King of Kong, les deux sont disponibles en DVD.
Ouais.
Et ça vaut vraiment la peine si vous avez ça à votre club vidéo près de chez vous. Donc, le film de la semaine, Pascal, t'as vu Ted, le premier film en live action de Seth MacFarlane. Seth MacFarlane, bien sûr, le gars derrière Family Guy, American Dad et autres.
Ouais.
Donc, verdict?
Pas tant, ça. OK, bon, fait que, d'un.
Pas tant, pourtant, tantôt, tu me disais que t'aimais, c'était quand même bien.
Là. Ben ouais, mais non? Pas tant, là. Je vais commencer par les bons points.
Ted, qui a d'ailleurs le film numéro 1 en fin de semaine, au week-end, qui a fait près de 55 millions de dollars.
Oui. Il y a tellement de fans de Family Guy que c'est ouais. sûr que ça allait marcher.
Moi, je pensais
c'était,
pas.
C'était pas comme un guest pour le studio, là. C'était sûr.
Ben, Family Guy. Tu dis ça, hein? Mais c'est très drôle. Je viens de lire que la Fox, c'est eux qui produisent Family Guy ouais. et tous les autres séries d'animation de Seth MacFarlane, ils ont dit non à ce film-là. Mm-hmm. Et c'est Universal qui produit le film qui a un budget de 70 millions.
Hey, ils doivent tellement rire, là. Mais ouais. c'est parce que Seth MacFarlane a même à Mané, Family Guy, ça marchait plus. Ouais. Ça a quitté l'antenne. Puis c'est les fans qui ont protesté pour que ça revienne.
Ben, c'est revenu. Les ventes de DVD, surtout, là, ouais, qui ont beaucoup.
C'est malade, là.
Ouais,
ben non, vas-y, Pascal, vas-y.
Non, mais il y a définitivement une fanbase. Puis tu sais, il en prend soin, sa fanbase. Hein. D'ailleurs, dans Ted, il fait même des autoréférences à Mané. Est-ce que je vais vous vendre un gag, là. Ça va être le seul gag que je vais vous vendre, mais je vais vous le vendre pareil. T'sais, à Mané, t'as comme Ted qui parle avec clairement la voix de Seth MacFarlane qui dit: "Ah, oh, come on, guys, I don't sound that much like Peter Griffin." T'as comme une autoréférence de comme des ouais. Family Guy. T'sais, tu vois qu'il est comme. En tout cas, là, c'est il sait qu'il y a une fanbase. Puis dans le générique, là, tu vois un peu hein, l'ego des gens juste à regarder le générique. T'sais, quand tu vois un générique, puis que, t'sais, mettons, t'as written, directed and produced by Seth MacFarlane, c'est une chose. Mais quand t'as written by Seth MacFarlane en gros, produced by Seth MacFarlane en gros, story by Seth MacFarlane en gros, directed by Seth MacFarlane en gros. Fait que t'es comme, ouais, ok, t'sais, c'est clairement.
C'est un peu comme le gag dans. Voyons, c'est quoi, c'est. Mr. Bean en vacances en Europe, je sais pas trop. Là.
Je sais pas.
Puis,
c'est vraiment pas un bon film, ça.
Non, mais il y a comme une séquence là, avec Willem Dafoe qui joue à.
Oh oui, oui, ça c'est le seul gag drôle de ce film-là, c'est vrai.
Cinéaste indépendant européen, puis là uh-huh. c'est lui qui monte dans un escalier roulant, puis là t'as juste genre des title cards, puis c'est comme written by lui, with lui, edited by lui, puis ça. Puis c'est...
A production by, puis c'est genre ouais. Nanana Film Company, c'est toujours son nom qui apparaît à chaque credit, là. Puis c'est un long ouais. take de Willem Dafoe dans un escalier mécanique. C'est malade. C'est vraiment drôle.
Ouais, ben, honnêtement, là, c'est comme pas une blague, puis c'est comme ça exactement. Mais bon, fait que
c'est. Mais en même temps, c'est le point vendeur du film. C'est dans toutes les annonces, c'est du gars qui a fait Family Guy.
Oui, ben oui. En tout cas, bref, donc Ted, je vais commencer par les bons points parce que honnêtement, je suis partagé avec ce film. Le bon point, le vraiment, là, sans équivoque, c'est Mark Wahlberg. Il est vraiment excellent. Moi, tu sais, Mark Wahlberg, on dirait que des fois, j'ai de la misère à le prendre tant au sérieux. En même temps, je sais qu'il est capable d'être bon. Tu sais, dans Boogie Nights, ça fonctionne au bout. Dans The Departed, il a été nominé. Il avait un petit rôle, mais il volait le show à toutes les fois qu'il était là. Tu sais, c'est un bon comédien. Il a joué dans The Fighter, un film qui est un petit peu sous-apprécié. Puis le film de Fighter, moi, j'ai beaucoup aimé là, le film de.
Moi, j'ai vraiment aimé ça.
Ouais, c'est ça. C'est
quand je l'avais vu, c'était comme. Je pensais que c'était comme un autre film de sport. Puis finalement, c'était quelque chose de vraiment, vraiment solide. Là.
Ouais, puis Mark Wahlberg, il est très, très
super
bon.
Super bien réalisé. C'est réalisé par un freak, là, mais super ouais. bien réalisé.
David O. Russell, là, qui est tristement célèbre pour péter des coches sur un plateau, dont une qui lui a quasiment valu sa carrière là, dans I Heart Huckabees. En tout cas, mais je vais arrêter de dériver.
De diffurquer, ouais, on diffurque beaucoup aujourd'hui, on est pas pire là-dessus.
Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, donc, Ted, donc un excellent point, c'est vraiment Mark Wahlberg, parce que la moitié du temps, il donne une réplique à quelqu'un qui est pas là. Okay? Ça, là, pour un comédien, imagine comment ça doit être difficile. T'sais, c'est comme faire des scènes de téléphone quand t'as personne au bout du fil. Ou t'sais. Mais là, lui, c'est encore plus extrême que ça. Il y a vraiment des scènes où t'sais, il tape dans la main de son ours, puis il se renvoie la balle parce que c'est très, très, très fast-paced. On sent, je pense, qu'il vient de la télé, Seth MacFarlane, parce que le film est écrit un peu de cette façon-là. Ça, je vais en revenir parce que c'est un petit peu un point négatif là, du film. Mais Mark Wahlberg est vraiment génial. Puis en même temps, c'est le bon casting parce qu'il joue une espèce de man-child, une espèce de grand garçon de 35 ans. Mais il a encore son nounours en plus, je veux pas. Puis même si C'est bon, mais je vais faire le synopsis. Donc, le synopsis de Ted, c'est ça commence très, très, très fantastique, là, un peu conte de fées, puis c'est un jeune très, très impopulaire la veille de Noël, fait un vœu que son ami, Ours en peluche, puisse réellement parler. Et puis là, ben, comme par magie, la magie de Noël fait en sorte que Ted, son ours en peluche, prend vie. Et puis donc là, au début, ça commence tout drôle, puis tout le fun. Puis là, après ça, tu as les premières personnes qui voient Ted. Puis là, on est ramené à une espèce de monde comme réaliste, comme dans le sens où à un moment donné, le lendemain de Noël, t'as le petit gars qui joue Mark Wahlberg plus jeune qui arrive à ses parents et qui dit « Mom, Dad, my teddy speaks for real! » Puis là, les parents sont comme « Oh, you don't say! » Puis là, finalement, t'as comme l'ours qui arrive puis qui parle pour vrai, puis là, c'est comme là, les parents, ils freak out, ils sortent des couteaux, ils veulent genre appeler la police, puis tout ça. C'est comme si quelqu'un réagissait dans le vrai monde à quelque chose de complètement fantastique, tu sais. C'est vraiment comique parce que là, après ça, t'as comme tout en rafale des bulletins de nouvelles de genre l'ourson qui s'en va dans des talk shows puis qui devient vraiment une célébrité puis tout ça. Donc, c'est un petit peu de prendre un élément complètement conte de fées puis de le ramener dans un univers comme si ça arrivait. Là, c'est un petit peu ça la prémisse du film. Puis donc là, le cœur du film se passe beaucoup plus tard, là où Mark Wahlberg a 35 ans, mais il est encore avec son nounours en peluche. Et puis là, ben là, c'est ça, les deux gars, c'est un peu un stoner movie, là, t'sais, ils fument du pot ensemble, puis ils font les 400 coups ensemble, puis en même temps, là, ça devient une prémisse, t'sais, l'espèce de scénario typique de l'ami qui retarde, l'espèce de mauvaise influence qui fait juste retarder le développement du personnage principal. Puis le personnage principal, ça fait 4 ans qu'il est avec sa blonde, mais là, sa blonde a fini par lui donner des ultimatums du genre, tu sais, c'est ton ours ou c'est moi, il faut que tu grandisses. Tu sais, c'est encore le typique personnage un peu loser qui travaille dans un... Dans
ben un peu le personnage peu à la Seth Rogen.
Ouais, c'est ça, la Seth Rogen. Puis il y avait un film qui ressemblait énormément à ça, là. Tu sais, c'était avec... je pense que c'est That's My Boy ou quelque chose comme ça, où c'est une espèce d'histoire de deux meilleurs amis que finalement ils deviennent trop amis, puis là ça affecte un couple. Là. En tout cas, il faudrait que je leur
trouve. Est-ce que c'était Brokeback Mountain?
Non, c'est pas ça.
Tellement bon.
Non, puis là, on ramène à un ours en peluche, donc c'est un petit peu wrong. Là.
That's My Boy, mon chat, c'est le dernier film de Adam Sandler qui vient tout juste de sortir.
Ah ouais, ben c'est...
Qu'on veut pas aller voir.
Non, c'est pas ça. Mais en tout cas, je ramène justement à qu'est-ce qui est vraiment pas bon dans ce film, dans Ted, j'ai trouvé, c'est que c'est tellement, tellement, tellement standard l'histoire, là. C'est vraiment, là, c'est ça. C'est l'espèce d'ami mauvaise influence qui fait juste retarder le développement d'un personnage un peu loser qui veut prendre sa vie en main, mais qui, en même temps, a de la misère, puis là, il a sa relation avec sa blonde, puis finalement...
Ouais, en même temps, là, pour ce genre de comédie-là, est-ce que c'est tant le scénario là, comme basique, là, le squelette, là,
ouais,
qui est important? Parce que si on pense à des bonnes comédies qui nous font rire, là, moi, mettons, je pense à Superbad, de 2007, que j'adorais. Ouais. Mais c'est l'histoire de, genre, trois jeunes qui veulent faire un party, puis, genre, coucher avec des filles.
Oui, mais... Ouais, mais en même temps, on dirait qu'il y a un point de vue, qui sort de l'ordinaire un petit peu. Là, la seule chose qui sort de l'ordinaire, c'est l'humour rated R de Seth MacFarlane. C'est ben, vraiment
c'est,
là.
C'est que c'est Mark Wahlberg qui parle à un nounours quand même. Là.
Ouais, bon, c'est ça. Puis, et donc, de là, ma deuxième critique négative, le film est une joke. Le film tient sur une prémisse qui découle d'une blague, c'est genre... Tu sais, c'est comme un gars qui chill puis qui fume du pot avec son nounours. C'est, en gros, c'est à peu près ça la joke de base.
Mais
bon, maintenant, comment qu'on peut la décliner?
C'est une comédie légère, puis je veux dire, l'humour de Seth MacFarlane, c'est Family Guy, c'est juste okay. Ça. Les épisodes, là, si tu voulais résumer les histoires, ça pourrait se faire en 5 minutes. Mais genre, les Family Guy, c'est juste des jokes de flashback.
Oui.
On étire un moment pendant 2 minutes.
Oui, mais... Une demi-heure télé, c'est 22 minutes. Là, on parle d'un film de 1h40, OK? Vraiment, moi, là, à 22 minutes, j'étais complètement vendu. Sur Ted, là, ça marchait au bout, OK? Tu sais, le premier acte fonctionne, OK? Ben, regarde, c'est vraiment un scénario en 3 actes, là, typique, tu sais. Ça commence, t'as une belle exposition entre les personnages, nanana. Et là, l'élément déclencheur, c'est finalement, sa blonde, il fait un ultimatum, et puis il dit à Ted de déménager. Ça, c'est vraiment, là, tu sais, c'est typique 3 actes. Donc, premier acte, première décision, Ted doit déménager. Deuxième acte, là, c'est comment que, justement, là, t'as la relation, t'as Ted qui vit de son bord, puis t'as la relation avec Mark Wahlberg, mais finalement, ils sont plus ensemble, mais ils sont tout le temps ensemble, donc la mauvaise influence persiste, et qui culmine vers, ultimement, Mark Wahlberg, je vends aucun punch, inquiétez-vous pas, mais... Donc là, ultimement, Mark Wahlberg commet un peu l'irréparable avec sa blonde, son coupe bas de l'aile, et puis là, le troisième acte, on doit réparer les pots cassés. Tu sais, c'est vraiment, là, vraiment standard, là. Tu te serais dit, come on, tu sais, est-ce qu'il y a moyen d'aller un petit peu plus loin? loin que ça.
Par contre, Pascal, là, moi, j'ai pas vu Ted.
OK.
Et je me fie, bon, à ce que j'ai vu au trailer, tout ça, et à ton jugement. Mais il y a quelques semaines, tu défendais Dictator corps et âme en disant « C'est pas grave, ce scénario, il est convenu, tout ça, puis ça dure juste 1h20. » Tu sais, des bonnes comédies qui te font rire dans l'année, il y en a combien? J'ai adoré The Dictator. Puis là, okay, Ted, tu me dis un peu...
Non, mais OK. Je vais rectifier. C'est vrai, je comprends. Mais dans The Dictator, le moteur du film n'est pas une romance, OK? Là, parce que le problème avec ce trois actes-là, c'est que c'est exactement la copie conforme de n'importe quelle romance. T'enlèves l'humour rated R, là, puis t'as un film que tu vois, tu sais, 10 fois par année. Dans The Dictator, Dictator, t'as déjà l'environnement par rapport à... tu sais, là, on est avec des, ben, justement, des dictateurs. C'est pas tous les jours que t'as une histoire qui s'attarde sur ce sujet-là. T'as un setup qui est pas banal, quand même. T'sais, oui, t'as un scénario en trois actes dans The Dictator qui ramasse bien un peu l'humour de Sacha Baron Cohen. C'est pas contre le trois actes que je chiale. Écoute, tous les films de Sidney Lumet sont faits sur un scénario en trois actes, mais c'est des scénarios absolument géniaux. Puis c'est pas la structure du scénario, c'est pas le squelette du scénario qui fait que ton scénario peut ne pas être bon. C'est pas ça que je veux dire. Puis il y a moyen de faire des trucs dans un moule, mais en étant vraiment en dehors du moule. Mais là, la seule chose qui est en dehors du moule, c'est juste l'ourson. Tu remplaces l'ourson par un ami, une mauvaise influence, puis t'as exactement le même film. T'sais. La seule affaire que t'as pas, c'est que t'as pas de blague autour de l'ourson. Mais pendant 1h30, ça s'essouffle. À maner le fait que c'est un ourson, donc il peut pogner les boobs des filles, puis passer inaperçu, vu que c'est un ourson en peluche. T'sais, après 20 minutes, t'as compris, tu comprends?
C'est qu'il renouvelle pas vraiment les blagues, finalement. Ça tombe trop autour de la prémisse.
Pas tant que ça, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, t'as fait le tour de la blague, du film blague, tu sais, du fait que c'est un ourson, puis que... et donc là, tu veux justement que t'es un personnage qui est, que t'as une histoire qui... Tu sais, que l'histoire t'amène quelque part, puis la romance entre Mila Kunis puis Mark Wahlberg, sérieux, ça marche pas super fort, j'ai trouvé. Dans le troisième acte, t'as même des espèces de méchants, là, tu sais, je veux rien dire, mais t'as comme deux personnages qui pop de nulle part, puis tu sais, ça fait quasiment penser à des films comme genre pas Lassie, mais tu sais, les films de chiens avec, tu sais, les méchants, les films de Beethoven, tu sais, les films de Beethoven, t'as tout le temps des méchants qui essaient d'attraper Beethoven, là.
Okay, ouais.
Mais là, c'est à peu près ça, là, c'est à peu près ça, sérieux, là. Puis ça marche pas. T'as juste l'humour rated R puis Mark Wahlberg dans ce film-là. Moi, j'ai trouvé. Bon, Seth MacFarlane, son voice acting est génial, mais ça, lui, il n'y a rien à prouver. Là, c'est clairement sa force. Il y a un timing comique absolument génial parce que.
Est-ce que le film est drôle?
Le film est drôle. Pas super surprenant, mais drôle. T'sais. Puis les fans de Family Guy vont se délecter. Il y a une couple de fois où il y a des flashbacks, justement. Là, c'est comme les deux personnages qui parlent, puis là, t'as comme un flashback juste délicieux, puis là, ça revient au personnage qui parle, puis là, c'est comme mouais. Puis là, finalement, ils sautent du coq à l'âne dans leur conversation à cause du flashback. Là, ça, c'est vraiment classique Family Guy.
Ouais, ouais.
Puis ça, t'en as une couple de vraiment savoureux.
Tu te rappelles Peter quand tu l'as pas enlevé ton gros chapeau?
Puis là, t'as comme. C'est ça, juste un flashback de Peter.
Je n'enlèverai pas mon gros chapeau.
C'est ça, exactement. C'est à peu près ça. Mais les fans de Family Guy, définitivement, Seth MacFarlane, fidèle à lui-même, l'humour rated R, ça fonctionne. Mark Wahlberg, c'est absolument le bon casting. Il est vraiment bon. Tu crois que la fille, elle peut être en amour avec lui, justement, que c'est un espèce de loser de 35 ans, mais qui a assez de dignité, puis qui est assez cute, puis qui est assez beau bonhomme, puis qui est assez bien intentionné pour que tu crois à ça. Vraiment, non, le moteur de la romance est intéressant, mais vraiment, là, moi, c'est le troisième acte particulièrement qui m'a complètement perdu, puis ultimement, on est complètement dans les normes. Là. Complètement dans les normes.
La question qui tue, ceux qui aiment pas du tout Family Guy, qui aiment pas ce genre d'humour, est-ce qu'il y a un intérêt à aller voir le film?
Non. 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 Non, mais vraiment, moi, regarde, ça serait, si j'avais à le rater, ça serait un 5 sur 10. Il y a plein de choses qui fonctionnent, mais il y a trop de choses. Il y a, de façon très imbriquée dans le récit, c'est pas une histoire qui... L'histoire t'accroche pas, puis les blagues vont être drôles peut-être une fois, peut-être deux, peut-être trois, mais pas assez pour soutenir des revisionnements, tu sais, j'ai l'impression. Parce que le même gag est répété un peu et décliné de tellement de façons que t'as fait le tour, tu sais.
Mais The Big Lebowski, tu l'aimais pas tant que ça le premier coup, c'est quand ça a pris de la bière et des amis pour que...
Ben, Ted, je le conseille dans ce... Oui, mais non, mais honnêtement, Ted, je le conseille sous ce forme-là. Vraiment, je le conseille vraiment entre amis...
Aller boire la bière et rentrer de la bière dans le cinéma.
Ah, une des grandes forces du film, c'est de faire croire, dur comme fer, que l'ourson est un personnage à part entière. tu sais, jamais que les effets spéciaux attirent l'attention sur eux-mêmes. Tu as toujours l'impression que l'ourson est là, que l'ourson fait partie intégrante du récit. Ça, c'est un beau tour de force, hein, parce que ça aurait pu être un turn-off, hein. Tu sais, d'avoir un espèce de personnage 3D qu'on croit pas vraiment en bout de ligne, que sa personnalité est pas jamais vraiment rendue.
Est-ce que je m'étouffe? Garfield.
Genre Garfield, tu sais. Non, mais tu sais, comme Pixar le font bien, l'identification fonctionne. C'est pas parce que c'est de l'animation qu'il y a pas une identification. C'est un film sur l'amitié. Ouais, il y a quelque chose de beau.
Seth MacFarlane, c'est un méchant bon casting. Ben, tu sais, casting, là, je dis ça parce que c'est son film, là. Mais c'est un gars qui fait des voix fantastiques.
Oh, il est génial.
Dans Family Guy, il fait, tu sais, il fait Peter, il fait Brian, puis il fait Stewie, puis les trois voix sont complètement différentes. Puis ils marchent, puis ils ont des tics, des personnalités. C'est génial,
le bon mot. C'est vraiment, il est vraiment, vraiment très, très bon. Le voice acting est absolument génial. Les meilleurs moments du film, c'est vraiment pas les moments d'histoire, c'est les moments où c'est comme les deux gars, ils chill. Comme t'as l'ourson, Seth MacFarlane, c'est ça, l'ourson, là, Ted, avec Mark Wahlberg, qui sont juste là à comme chiller, écouter Flash Gordon, puis genre parler de culture pop. Ça, c'est les meilleurs moments. Les moments Kevin Smith dans ce film-là, ils fonctionnent au bout.
Les moments Kevin
Smith. Vraiment.
Mark Wahlberg, je l'ai pas vu, mais c'est un méchant bon casting. Là.
Oui.
Tu sais, c'était quand même un rappeur qui est devenu acteur. Fait que, tu sais, je sais pas, ça fit un peu, tu sais, avec le grand gamin. Là,
ouais, ouais. Donc tu y crois, c'est casting, les moments hangout, il y a assez de bons gags pour soutenir l'audience. Moi, je suis allé voir au cinéma dans une salle pleine parce qu'effectivement, comme Paul t'a dit, c'est un gros hit, là, ça va être le plus gros box-office de la fin de semaine, puis tout ça. Regarde, la salle répondait très bien, même il y a eu des applaudissements à la fin de la projection. Donc, je pense que les fans vont être servis, mais moi, ça m'en aurait pris plus côté personnage, côté histoire, surtout dans les personnages secondaires. Il y a vraiment des trucs qui font aucun sens et des trucs qui étaient comme, ouais. Non, sérieux, j'embarque pas. Donc, surtout le troisième acte. Donc, allez le voir, mais conseil avec mitige.
Ben, je pense que si t'es du genre à aimer Family Guy, tu risques d'aimer Ted.
Ouais.
Ça sort en salle. C'est déjà sorti en salle de régir, donc dans tous les cinémas. Alors, Ted, peut-être plus pour les fans de Family Guy.
Ouais.
Maintenant, qu'est-ce qui sort en DVD cette semaine, Rémi?
Ben, c'est pas une semaine si fantastique. Désolé. Fait que on a les deux films qu'on a nommés tantôt que je trouve toujours drôles. C'est des films qu'on peut appeler des... Comment ça s'appelle? Non, ben, en fait, je vous les nomme, c'est Abraham Lincoln.
C'est des rip-offs, là. Des copies genre sans aucune... aucun remords, là.
Mais il y a vraiment un nom pour ça. Faire de l'argent, c'est comme un...
Crossément.
Ça s'appelle des mockbusters, c'est ça. Ah, mockbusters. Okay. C'est vraiment de prendre un titre qui est très connu puis juste changer quelques lettres dans le titre puis faire un film qui ressemble un peu.
Parce que là, c'est vraiment un hasard là, que ça sort cette semaine.
Un peu comme Transmorphers aussi, puis qui sortait en même temps que Transformers. Puis il y a même un Transmorphers 2. C'est vraiment une compagnie qui fait succès avec ça. Donc, eux, ils viennent de sortir Abraham Lincoln vs. Zombies et Alien Origin.
Donc, pas du tout relié avec Prometheus et Abraham Lincoln vs. Zombies.
Non, pas du tout.
C'est une coïncidence.
Puis j'ai fait le tour de la liste, puis dans les sorties originales, il n'y a pas grand-chose sérieux cette semaine. Par contre, dans les rééditions, il y a Barbarella, Born of on the 4th of July, The Entity, Ghost in the Machine, The Horse Whisperer, puis Step Up en Blu-ray! Step Up en Blu-ray!
Hey, t'as piqué.
Excusez-moi. Puis dans les séries télé, il y a Man vs. Wild, saison 6, avec Bear Grylls, qu'on retrouve dans la forêt en train de boire sa pisse. Voilà.
Bon. Donc, peut-être une fin de semaine qu'on va louer des vieux films, plutôt que les nouvelles sorties.
Surtout, c'était pas en Blu-ray.
Ouais. Et en salle, Pascal, qu'est-ce que ça
En salle, dans le mainstream, dans le très mainstream, il y a le film de Katy Perry qui sort jeudi.
Part of Me en 3D.
Il y a...
Moi, j'aurais peut-être deux raisons d'aller voir ce film-là en 3D.
Ouais, mettons, ouais, deux bonnes raisons. Ouais.
Deux grosses raisons. Oh. Bon, Spider-Man est déjà sorti.
Oui. La sortie la plus intéressante, je vous dirais, c'est pas mal le film d'Oliver Stone qui va sortir vendredi. C'est le film Savages. Oliver Stone qui revient dans des récits un peu criminels. Donc là, c'est un film autour de l'industrie de la marijuana. Donc le film s'appelle Savages avec John Travolta, entre autres, Samaya Hayek. Et bon, donc ça a l'air intéressant.
Il serait quand même dû pour un hit. Hein.
Ouais, parce que
depuis le Center,
là, aïe aïe.
ça a vraiment l'air superbe, hein, parce que déjà sur Rotten Tomatoes, il y a comme, je pense qu'il y a juste 6 critiques qui sont sorties. C'est un consensus de 100% pour l'instant. Là. Non, c'est sûr bien. Que ça va descendre. Là. Mais il paraît que c'est vraiment comme entre son petit côté edgy qu'il y avait à l'origine. Il mêle ça avec vraiment comme une attention esthétique. Tu sais, comme Natural Born Killer, c'est un film qui garoche quand même. Là. Oh, je sais pas pour vous, là, mais c'est un film qui garoche. Là.
Ouais. Bon, sinon, dans quelque chose de très intéressant, est-ce que vous savez qu'est-ce qui se trouve au 47 rue Saint-Pierre, les amis, à Montréal?
Non.
C'est le FI Centre. Est-ce que vous savez c'est quoi?
Ah oui, le FI Center. Le nouveau centre de la compagnie FI Films. Qui ont produit des courts-métrages québécois les plus primés des dernières années.
Ben écoute, cette semaine, c'est une grosse semaine pour eux. Moi, je pense que c'est une place qui va devenir un incontournable à Montréal. Le 5 juillet, il y a le film Beasts of the Southern Wild. Est-ce que vous savez c'est quoi ce film-là?
Ah, ben je sais que c'est un projet, je pense. C'est soit à Sundance ou à Cannes, c'était un des plus gros hits. Là.
Caméra d'or à Cannes, Grand Prix à Sundance. Selon beaucoup de gens, le film de l'année à date. Donc, Beast of the Southern Wild est présenté en présentation spéciale le 5 juillet au FI Center. Donc, c'est un nouvel endroit. Et aussi, le 3 juillet, donc mardi soir, et donc si vous écoutez le podcast, c'est ce soir, il y a une projection de Prends Secours. Prends Secours, si vous n'avez pas, c'est quoi encore? C'est Danny Lennon, là, c'est un gars qui est comme super impliqué dans le monde du court-métrage au Québec, mais il est jury dans plusieurs festivals un peu partout. Et puis lui, il fait des projections Prends Secours et où il ramasse en fait des courts-métrages qui ont été primés, des courts-métrages de l'année passée, des grands films, des grands courts-films qu'il présente dans des soirées Prends Secours. Et donc, traditionnellement, c'était pas au FI Center, mais maintenant...
Parce que
ça n'existait pas. Mais là, cette semaine, donc mardi soir, il y a déjà une projection. Moi, je vais y être. Donc, si vous voulez aller voir ça, ça peut être très, très, très intéressant.
Est-ce que tu y vas avec un film?
Non, moi, je ne vais pas avec un film, mais je vais là pour voir des films. C'est pour se garder au courant de ce qui se passe dans le court-métrage au monde, en fait, parce que c'est des films de partout. Des films québécois, souvent en présence des réalisateurs. C'est vraiment des belles soirées. Moi, je suis allé là à plusieurs occasions, les soirées Prends Secours. C'est très, très hot que ça se passe à Montréal. Donc, une belle soirée de court-métrage en vue. Et donc, allez voir sur le Google est là, le PHI Centre. Le site web, c'est phi-centre.com. Allez voir ça, ça vaut la peine. Je pense que ça va devenir, comme je vous l'ai dit, un incontournable à Montréal. On va en parler de plus en plus. Donc, Beast of the Southern Wild qui va jouer le 5 juillet. Sinon, il y a le cinéma du parc qui sort encore une fois. J'en ai parlé la semaine passée, mais de la rétrospective de Music Hall. C'est commencé depuis le 29 juin. À partir de... donc, je veux dire ceux qui sont à partir du 3 juillet. Il y a Singing in the Rain, mardi soir, 6h45. Donc, si vous écoutez podcast et que vous avez envie de voir probablement un des plus grands musicals de tous les temps, allez voir Singing in the Rain ce soir, 6h45. Sinon, allez voir sur lecinemaduparc.com la programmation. C'est une programmation extrêmement complète de comédie musicale américaine.
Puis, Singing in the Rain qui vieillit pas, hein. C'est tellement je peux montrer ça à n'importe qui. Tu peux montrer ça à des enfants aujourd'hui, puis ils vont aimer ce film-là. C'est tellement magique, ce film-là. Ouais, on dirait que ça vieillit juste pas. Je sais pas pour vous, là, mais il me semble il y a plein de gens qui sont super réticents des vieux musicals, puis du vieux cinéma, du vieux Hollywood. Puis j'ai montré ça à des gens, puis ils embarquent tout de suite. J'avais un coloc, justement, il trippait pas là-dessus. Puis il y a un soir, je l'ai assis devant Singing in the Rain, j'ai dit écoute ça. Puis il a trippé à fond c'était comme chantait les chansons. Puis
en salle, en plus, le voir en salle, ça doit tellement prendre son sens. Tu sais, moi, je l'ai vu d'ailleurs une fois, je l'avais vu à Cinémathèque quand il avait passé l'année passée en salle. C'est les meilleures expériences, puis c'est tellement juste plaisant. C'est des films bonbons, t'as le sourire aux lèvres tout le long. C'est des films magnifiques. Donc, Singing in the Rain qui joue mardi soir. Sinon, moi, je veux juste attirer votre attention sur deux films en particulier dans cette programmation-là qui jouent back-to-back. C'est les films de Ginger Rogers et de Fred Astaire. Moi, avant d'en voir des films comme ça, des films de Fred Astaire, j'avais l'impression que c'est des films un peu cheap. Tu sais, que c'est un peu des serials, tu sais, des films qui en sortent deux par année, puis que c'est juste des musicals un peu recettes. Hey, mais tellement pas. Moi, là, je trouve que c'est des films américains des années 30, parce que là, on parle de films qui sont pas longtemps après l'avènement du parlant. Tu sais, le parlant, c'est à peu près à partir de 1929. Souvent, ils disent que The Jazz Singer serait le premier gros hit parlant. C'est un film de 1929. Eh bien, les back-to-back, le dimanche 8 juillet, tu as le film Swing Time et le film Top Hat. C'est probablement les deux meilleurs, parce que moi, je suis un grand, grand fan des films de Fred Astaire, Ginger Rogers, et c'est deux des meilleurs. Et puis, back-to-back, là, à 2h15 d'après-midi, puis à 4h15 d'après-midi, au Cinéma du Parc, vous pouvez vous taper ces deux films-là.
Moi, j'allais dire, moi, je suis pas un très grand connaisseur de la comédie musicale, mais j'ai vraiment un point faible pour Fred Astaire. Là. Mm-hmm. C'est vraiment... c'est un grand, je pense.
Ah, c'est un grand, c'est clair. Sans Fred Astaire, t'aurais pas eu Gene Kelly. Puis, tu sais, c'est comme, même si c'est très différent de Gene Kelly, c'est tellement plus musculaire. Puis, comme, Fred Astaire, c'est beaucoup plus en gracieux. Tu sais, c'est comme, on dirait qu'il flotte, puis il fait son tap dance en flottant, puis c'est gracieux. Gene Kelly, lui, bardasse les autres comédiennes, puis tu sais, c'est tellement, en tout cas, c'est différent, j'en conviens, mais disons que c'est les deux grands, là, tu sais, puis je pense que ça a pris un pour avoir l'autre, puis Fred Astaire, c'est le premier géant du musical américain, dû au fait qu'il est arrivé avec l'avènement du musical, et puis Swing Time et Top Hat seraient le couronnement de grands films, et très, très, très fructueux qu'il a fait avec Ginger Rogers. Ginger Rogers, selon beaucoup de gens aussi, il y a une belle quote sur Ginger Rogers, il dit: pour moi, c'est elle la vraie génie derrière tout ça, parce que elle est capable de faire ce que Fred Astaire fait, mais de dos avec des talons hauts.
Ouais.
Swing Time, Top Hat, le dimanche 8 juillet. Allez voir ça. Fait que ça fait le tour de ce qui
se passe. Ouais. Moi, j'ai juste à voir de quoi, en fait, j'aimerais ça signaler. On va en parler sûrement dans un autre podcast, mais je viens de voir au Cinéma du Parc, du 10 au 16 août, donc c'est quand même dans un mois et demi, il y a des copies restaurées 35 mm de La Condition de l'Homme. La Condition de l'Homme, un film épique de 10 heures, en fait, de Masaki Kobayashi, donc réalisateur japonais. C'est des films là, qui sont sortis dans l'âge d'or au Japon, là, de 59 à 61. Et c'est des films que, bon, j'avoue, je ne les ai pas vus encore, mais c'est considéré comme en trois parties. Là, c'est comme un gros film trilogie, si on veut. Et c'est considéré vraiment comme un film monumental.
C'est monumental. Moi, je l'ai
pour l'avoir vu. C'est ça, c'est sur la guerre.
Pour l'avoir vu, là, c'est un des grands, 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 grands films. C'est un grand point de vue japonais sur la Deuxième Guerre mondiale qui a été fait entre 1959 et 1960. Et trois Human Conditions sont sortis d'une année et demie. Écoute, c'est gros, là. C'est épique. C'est épique, là. Puis c'est magnifique. C'est Kobayashi, c'est un des excellents réalisateurs japonais de cette époque-là qui nous avait donné le film Harakiri, entre autres. Ils sont peut-être son plus connu.
C'est ça, les trois films, c'est 3 heures chaque. Et le personnage principal, c'est Tatsuya Nakadai qui l'interprète, un acteur méconnu peut-être de ce côté-ci du globe. Mais moi, j'irais jusqu'à dire qu'il tient son bout hein, face à des acteurs comme Toshiro Mifune, qui est sans doute l'acteur japonais le plus connu.
Oui.
Mais c'est ça, Tatsuya Nakadai aussi, c'est vraiment je pense, puis selon plusieurs personnes qui ont vu les films, c'est peut-être le rôle de sa carrière, la Condition de l'Homme. Donc, moi, je vais sûrement y aller si j'ai le temps. Ça joue du 10 au 16 août au Cinéma du Parc.
Parfait.
Donc, c'était notre point de vue. J'ai oublié quelque chose d'important. Cette semaine, on découvre en musique, c'est la pièce Peur du groupe About. Donc, si ça vous intéresse, on va mettre le lien vers leur site web Bandcamp, qui est aboutben.bandcamp.com. Donc, c'était notre point de vue et mon nom est Paul Landriau. Je suis avec mes collègues
Rémi Fréchette,
Pascal Plante.
C'est ainsi qu'il m'a...